Le vieux gentilhomme n'avait pas prononcé une parole. Les yeux rivés aux yeux de l'étranger, il écoutait avec un effroi grandissant. Parfois, le souvenir des avertissements que lui avait donné le préfet de police revenait à son esprit.
« En vos cuisines, monsieur le duc, en vos cuisines !»
Il dit, la voix sourde.
« Parle, achève, tout cela m'oppresse, je ne comprends pas encore, et j'ai peur. »
« Hélas, l'histoire est facile à reconstituer et se résume en quelques phrases. Voici, lors de sa visite chez moi et des confidences que j'ai eu le tort de lui faire, le comte d'Andrézy retint plusieurs choses. D'abord, que j'étais votre neveu et que cependant, vous me connaissiez relativement peu puisque j'avais quitté Sarzeau tout enfant et que depuis, nos relations s'étaient bornées au séjour de quelques semaines que je fis ici, il y a 15 ans, et durant lesquelles je demandais la main de ma cousine Angélique. Ensuite que, ayant rompu avec tout mon passé, je ne recevais plus aucune correspondance. Et enfin qu'il y avait, entre lui, Andrézy et moi, une certaine ressemblance physique que l'on pouvait accentuer jusqu'à la rendre frappante. Son plan fut échafaudé sur ces 3 points. Il soudoya mes 2 serviteurs arabes qui devaient l'avertir au cas où j'aurais quitté l'Algérie. Puis il revint à Paris avec mon nom et mon apparence exacte, se fit connaître de vous, chez qui il fut invité chaque quinzaine et vécut sous mon nom, qui devint ainsi l'une des nombreuses étiquettes sous lesquelles il cache sa véritable personnalité. Et il y a 3 mois, la poire étant mûre, comme il dit dans ses lettres, il commença l'attaque par une série de communications à la presse et en même temps, craignant sans doute qu'un journal ne révélât en Algérie le rôle que l'on jouait sous mon nom à Paris, il me faisait frapper par mes serviteurs, puis enlever par ses complices. Dois-je vous en dire davantage en ce qui vous concerne, mon oncle ? Un tremblement nerveux agitait le duc de Sarzeau-Vendôme. L'épouvantable vérité à laquelle il refusait d'ouvrir les yeux, lui apparaissait tout entière et prenait le visage odieux de l'ennemi. Il agrippa les mains de son interlocuteur et lui dit âprement, désespérément,
« C'est Lupin, n'est-ce pas ?»«
Oui, mon oncle. »«
Et c'est à lui que j'ai donné ma fille en mariage. »«
Oui, mon oncle. » À lui qui m'a volé mon nom de Jacques d'Amboise et qui vous a volé votre fille. Angélique est la femme légitime d'Arsène Lupin, et cela conformément à vos ordres. Une lettre de lui que voici en fait foi. Il a bouleversé votre existence, troublé votre esprit, assiégé les pensées de vos veilles et les rêves de vos nuits, cambriolé votre hôtel, jusqu'à l'instant où, pris de peur, vous vous êtes réfugié ici, et où, croyant échapper à ses manœuvres et à son chantage, vous avez dit à votre fille de désigner comme époux l'un de ses 3 cousins, Mussy, Amboise ou Caorche.
Mais pourquoi a-t-elle choisi celui-là plutôt que les 2 autres ?
C'est vous, mon oncle, qui l'avez choisi.
Au hasard, parce qu'il était plus riche.
Non, pas au hasard, mais sur les conseils sournois, obsédants et très habiles de votre domestique Hyacinthe. »
Le duc sursauta.
« Hein ? Quoi ? Hyacinthe serait complice ? »
D'Arsène Lupin, non. Mais de l'homme qu'il croit être Amboise et qui a promis de lui verser 100 000 francs 8 jours après le mariage.
« Oh, le bandit ! Il a tout combiné, tout prévu !»«
Tout prévu, mon oncle, jusqu'à simuler un attentat contre lui-même, afin de détourner les soupçons, jusqu'à simuler une blessure reçue à votre service.
Mais dans quelle intention ? Pourquoi toutes ces infamies ?
Angélique possède 11 millions, mon oncle. Votre notaire à Paris devait en remettre les titres la semaine prochaine au pseudo d'Amboise, lequel les réalisait aussitôt et disparaissait. Mais dès ce matin, vous lui avez remis, comme cadeau personnel, 500 000 francs d'obligations au porteur que ce soir, à 9 heures, hors du château, près du grand chêne, il doit passer à l'un de ses complices qu'il y négociera demain matin à Paris. »
Le duc de Sarzeau-Vendôme s'était levé, et il marchait rageusement en frappant des pieds.
« Ce soir, à 9h, nous verrons, nous verrons. D'ici là, je vais prévenir la gendarmerie. »
« Arsène Lupin se moque bien des gendarmes. »«
Télégraphions à Paris. »«
Oui, mais les 500 000 francs. »« Et puis, le scandale surtout, mon oncle. Pensez à ceci. Votre fille, Angélique de Sarzeau-Vendôme, mariée à cet escroc, à ce brigand. Non, 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 à aucun prix. »«
Alors quoi ?»«
Quoi ?»
À son tour, le neveu se leva et, marchant vers un râtelier où des armes de toutes sortes étaient suspendues, il décrocha un fusil qu'il posa sur la table près du vieux gentilhomme.
« Là-bas, mon oncle, aux confins du désert, quand nous nous trouvons en face d'une bête fauve, nous ne prévenons pas les gendarmes. Nous prenons notre carabine et nous l'abattons. »
La bête fauve, sans quoi, c'est elle qui nous écrase sous sa griffe.
« Qu'est-ce que tu dis ?»«
Je dis que j'ai pris là-bas l'habitude de me passer des gendarmes. C'est une façon de rendre la justice un peu sommaire, mais c'est la bonne. Croyez-moi, et aujourd'hui, et dans le cas qui nous occupe, c'est la seule. La bête morte, vous et moi l'enterrerons dans quelque coin, ni vue, ni connue. »
« Angélique !»«
Nous l'avertirons après. »
« Que deviendra-t-elle ?»«
Elle restera ce qu'elle est légalement, ma femme. » La femme du véritable Amboise. Demain, je l'abandonne et je retourne en Algérie. Dans 2 mois, le divorce est prononcé. »
Le duc écoutait, pâle, les yeux fixes, la mâchoire crispée. Il murmura.
« Es-tu sûr que ses complices du bateau ne le préviendront pas de ton évasion ?»«
Pas avant demain. »
De sorte que...
De sorte qu'à 9h ce soir, Arsène Lupin prendra inévitablement, pour aller au Grand Chêne, le chemin de ronde qui suit les anciens remparts et qui contourne les ruines de la chapelle. J'y serai, moi, dans les ruines.
J'y serai, moi aussi,
dit simplement le duc de Sarzeau-Vendôme en décrochant un fusil de chasse. Il était à ce moment 5h du soir. Le duc s'entretint longtemps encore avec son neveu, vérifia les armes, les rechargea. Puis, dès que la nuit fut venue, par des couloirs obscurs, il le conduisit jusqu'à sa chambre et le cacha dans un réduit contigu.